Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Didier Urbain, qui publie « Au soleil, naissance de la Méditerranée estivale » chez Payot. Comme le fond bleu de la boîte à violon de Matisse, la grande bleue, mentalement sortie un instant de son étui, y retournera. Vous êtes anthropologue, Jean-Didier Urbain, professeur à Paris Descartes, et vous avez publié pas mal de livres dont vous êtes souvent venu parler au micro du jour au lendemain, des livres sur le voyage notamment, puis L'idiot du voyage, histoire de touriste, ou beaucoup plus récemment, Le voyage était presque parfait, essai sur les voyages ratés. Il y a aussi ce titre, Ethnologue mais pas trop, qui vous va peut-être très bien. Ethnologie de proximité, voyages secrets et autres expéditions minuscules. Et puis, un livre que je vais citer, car celui dont nous allons parler ce soir ne nous en éloigne pas trop, Sur la plage, mœurs et coutumes balnéaires, 19e, 20e siècle. D'ailleurs, vous étiez venu en parler dans Du jour au lendemain. Et il se trouve que 20 ans après, vous y revenez.
Absolument, oui, oui. Parce que, au fond, j'avais posé peut-être une question, en tout cas identifié une petite énigme, lorsque j'ai écrit Sur la plage, qui est c'est le troisième chapitre de ce livre d'ailleurs, que j'avais appelé L'ère des scandales et qui est marquée par une série d'inversions, et notamment le fait que le baigneur se dénude, le fait que ce baigneur devient un nageur, le fait que ce baigneur a des envies de Polynésie, ce fait que ce baigneur, au fond, change de peau. Bref, il y a une inversion, le fait que ce baigneur a besoin de chaleur, alors qu'il la fuyait jusqu'alors. J'avais noté ce phénomène, mais sans véritablement l'approfondir, parce que ce qui m'intéressait, c'était un peu la société de plage, voir ce que les gens font sur la plage. J'étais là dans une situation d'ethnographe ou d'ethnologue de proximité, observant les gens sur la plage qui ont la réputation de ne rien faire. Mais quand vous regardez de plus près, vous voyez qu'il se passe énormément de choses sur une plage. C'est une vie très organisée, très compliquée, avec des règles territoriales, des règles d'installation, des règles d'échange de tribu à tribu. C'était tout ça qui m'intéressait à l'époque. Mais il me restait derrière la tête, cette idée, quand même, que c'était curieux, cette inversion. D'où venait-elle? Pourquoi s'était-elle produite? Et finalement, tardivement, je n'avais pas encore d'idée très précise quand j'écrivais Sur la plage, mais je trouvais que ça n'avait pas été ainsi durant tout le 19e siècle, quand s'était produite cette inversion. Et pourquoi? C'était la question, et c'était l'énigme. Et donc, Au soleil, au fond, 20 ans après, est une tentative pour apporter une réponse à cette question que j'ai à peine osé poser à l'époque, parce que j'avais d'autres soucis, voilà. D'autres préoccupations, plus exactement, d'autres soucis de découverte.
Et donc là, vous, avec ce livre, vous racontez ce moment de profonde mutation de la société et des mentalités, celui où, en Europe, on se met à aimer le soleil plutôt que la lumière.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on se met à aimer le soleil pour sa chaleur, comme instant, je dirais, de brunissement, voire de torréfaction des corps. Et alors même que tout ce qui précède est une culture de l'ombre, une culture du frais, une culture de l'hiver. Et c'est ça qui m'a beaucoup intrigué et que je voulais aussi rappeler, parce qu'au fond, c'est une révolution culturelle silencieuse et déjà oubliée, qui s'est produite tardivement, à savoir que la Méditerranée a d'abord été une destination, en tant que destination de loisirs divers, que ce soit des fins culturelles, des fins médicales ou d'autres fins, plus libidinales, dirais-je, ça a d'abord été une destination d'hiver.
Le soleil brille aussi l'hiver.
Le soleil brille aussi l'hiver, mais il ne brûle pas, il ne chauffe pas. Hein, il est un soleil de clarté, mais il n'est pas un soleil de chaleur. D'ailleurs, Matisse lui-même aimait ce soleil de clarté, il n'aimait pas ce soleil de chaleur. Et il faisait comme les autres, l'été, il remontait vers le nord. Hein, de ce point de vue-là, Matisse est un peu un personnage charnière, à l'interface de deux cultures, une culture très hédoniste, qui est la culture justement qui va conduire à la seconde moitié du XXe siècle, et d'autre part, une culture au contraire un peu plus de intérieur replié de l'ombre, du frais, qui est celle du hérité du 19e siècle, au fond, et qui remonte vers la fraîcheur quand elle est supportable, vers le nord. Hein, donc, si vous voulez, c'est ça qui est très curieux, c'est qu'au fond, cette révolution, elle est tardive, on l'a oubliée, mais elle ne se produit qu'entre 1925-1930, et elle s'achève véritablement en 1950. Et avec vraiment, c'est pas soudain, si vous voulez, ça prend quand même 25 ans, mais c'est assez rapide quand même pour surprendre des hôteliers. On a des témoignages des hôteliers de la Côte d'Azur qui avaient coutume de fermer leur hôtel début mai et qui voient arriver des clients qu'ils n'attendaient pas et qui se demandent mais d'où viennent-ils, pourquoi viennent-ils. Normalement, l'habitude, la tradition, c'est de fermer nos hôtels pendant l'été parce que la Méditerranée, comme destination d'agrément, est une destination désertée l'été, redoutée pour sa chaleur.
Alors vous dites qu'on ne trouve pas chez les historiens d'explications suffisantes de cette inversion ou de ce renversement.
Oui, enfin, c'est-à-dire on trouve chez les historiens quelques éléments d'explication qui ne sont pas suffisants, me semble-t-il, à eux seuls pour expliquer l'ampleur de cette révolution. Et c'est pour ça que j'ai voulu, tout en conservant bien sûr les arguments avancés par ces historiens, élargir un petit peu le propos en tenant compte du contexte, voir ce qui avait pu faciliter au fond la dislocation d'un ordre, hein, qui est un ordre de domination, établi effectivement par le Nord sur le Sud au fil du XIXe siècle. Un ordre de domination qui est notamment anglo-français, je dirais, hein, et qui règne sans partage pratiquement hein, sur la Méditerranée, à travers les colonies, à travers les protectorats, qui impose son ordre moral et politique, et même technologique, et qui fait qu'au fond la Méditerranée reste et devient plutôt devient encore plus une mer de suppléance, une mer soumise à l'océan, à l'ordre océanique, comme elle l'est depuis longtemps. Enfin, c'est pour ça que je commence en citant Braudel, disant Braudel, la Méditerranée a été très vite enfermée dans un rôle de mer du passé. Elle est la mer des origines, mais elle est du coup aussi la mer du passé, par opposition à l'océan Atlantique, qui est la mer du futur, tournée vers le Nouveau Monde, etc. Et ce confinement, si vous voulez, géopolitique, mais culturel aussi, va évidemment aussi déterminer, je dirais, l'évolution touristique et vacancière de la Méditerranée, qui sera aussi, là aussi, une mer de domination, je dirais aliénée hein, aux desiderata du Nord et à leurs désirs. C'est-à-dire un désir d'Orient, désir de l'autre, un désir d'origine, de passé. Et ce sera, je dirais, ce que j'appelle, moi, le croissant fossile de la côte est italienne ou de Rome jusqu'aux pyramides d'Égypte, cette origine du monde, mais au sens historique du terme, alors que l'autre Orient, Orient sexuel, c'est l'origine du monde, mais au sens de Courbet, plutôt. Hein. Et puis, une troisième Méditerranée, qui est la Méditerranée curative, qui est celle où l'on vient se soigner en été, en hiver, pardon, en attendant que l'été revienne sur les côtes atlantiques, baltiques, mer du Nord, etc., qui sont véritablement les lieux initiaux de la médicalisation du bain de mer.
Alors, ce que vous montrez dans le livre, Jean-Didier Urbain, c'est que ce n'est pas seulement l'usage de loisirs de la Méditerranée qui change, mais tout un monde de valeurs.
Voilà. C'est tout un monde de valeurs qui change, dans la mesure où le paradigme, je dirais, de la Méditerranée, qualifions-la d'océanique, du XIXe siècle, c'est l'ombre. c'est l'ombre, c'est la fraîcheur. Et c'est l'obscur. C'est l'obscur, c'est l'ombre des pins à l'abri desquels se met le villégiateur quand il va sur la Côte d'Azur. C'est l'ombre des ruines qui fascine Maxime Ducamp, qui déplore de ne pouvoir photographier l'intérieur des monuments d'Égypte, mais qui pénètre dans ces obscurités avec délice. Et puis c'est aussi tout simplement l'ombre des bordels d'Orient. C'est ce tourisme sexuel bien avant l'heure qui existe déjà et qui existe d'Istanbul jusqu'à Tanger. C'est un Orient qui n'est pas qu'à l'Orient, il est aussi au Sud et vers lequel vont tous ces voyageurs sous couvert évidemment d'autres motifs. Flaubert ne va pas faire un long voyage autour de la Méditerranée seulement pour avoir des documents pour écrire Salammbô. Il a d'autres choses. Il pratique, il le dit, mais il faut aller voir dans ses correspondances pour s'en rendre compte. Mais je cite le cas aussi d'un personnage qui était réputé être pour la littérature d'enfance, qui est le personnage de Tartarin de Tarascon, qui s'en va à la chasse au lion, qui va en Algérie comme s'il allait en Orient. Pour lui, c'est l'Orient. Et qui, au cours de ce voyage dont on connaît un peu l'issue, puisqu'il tue un lion aveugle qui appartient à un cirque et ça lui permet de rentrer chez lui triomphant avec un mensonge de plus à son actif. Mais il y a un intervalle de 6 chapitres dans le Tartarin de Tarascon, qui est une parenthèse amoureuse, où ce grand niais bavard de Tartarin se fait précisément déniaiser par une bayadère, où il vit véritablement une expérience passionnée, amoureuse, sexuelle pendant quelques mois, au point d'oublier même sa mission de chasseur de fauves, et au point même aussi de s'habiller à l'algérienne et de changer de nom. Il n'est plus Tartarin, il est Ben Tartri. Il se déplace sur sa mule pour aller dans son jardin de pastèques qu'il cultive. Il s'intègre. Il a la tentation même de la fusion, de l'assimilation. Et ça, on l'oublie. Mais c'est tout à fait symptomatique d'une tentation ou d'un désir d'Orient, comme l'avait très bien écrit Edmond Charleroux à propos d'Isabelle Eberhardt. C'est un désir d'Orient qui est un désir de l'autre, qui est un désir vraiment passionnel et pulsionnel, mais qui se fait dans l'ombre. L'ombre encore. Comme on va se faire soigner à l'ombre des pins, dans l'ombre fraîche des maisons de santé. Où va Juliette Adam, poitrinaire, cracher son sang rouge face à la Grande Bleue, puisque c'est ainsi qu'elle la nomme. C'est à elle qu'on doit normalement cette expression, en 1868. Ce qui caractérise cette époque du 19e siècle, c'est l'ombre. Mais c'est l'ombre aussi bien du frais que du secret, que du mensonge. Et la révolution, ce sera évidemment quand cette ombre sera effacée par un désir de lumière, qui sera aussi un désir de chaleur, un désir contre l'ombre opaque, ces ténèbres, un désir de transparence. Et la Méditerranée, ici, va prendre une toute autre dimension. Elle est la mer de la transparence. Mmh. Et la transparence, là aussi, à prendre dans tous les sens du terme, comme l'ombre précédemment. Elle est la transparence, bien sûr, visuelle, esthétique, mais elle est aussi la transparence, je dirais, morale. C'est la révolution sexuelle, c'est une sexualité qui s'assume en plein soleil. Il faudrait que je cite, si vous voulez, le texte prémonitoire, je dirais, de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville, où il attribue à un Tahitien ces paroles, je cite de mémoire comme ça, mais que vous, occidentaux, veuillez vous reproduire et faire l'amour dans l'ombre des forêts, cela vous regarde avec une compagne perverse, mais laissez-nous, à nous, pauvres Tahitiens, le plaisir de faire tout cela au soleil. Bon, et au fond, c'est ce qui va se produire. Et en plus, c'est effectivement le modèle paradisiaque tahitien qui va s'imposer sous la forme bien connue du Club Méditerranée, mais aussi d'autres associations de l'époque, qui, au fond, c'est le pied de nez de cette mer à la fois confinée par le passé, dominée par l'océanique, qui va se faire océanienne pour se détacher de ces deux aliénations. Mmh. Et ça va être une mer utopique qui va vivre, qui va sortir de l'étui de Matisse, en devenant polynésienne. Bon, ce sera un rêve va passer. Mon livre se finit sur une note un peu pessimiste, parce qu'au fond, cette mère rentre dans le rang et elle est victime, effectivement, je dirais, d'une mise au pas par l'industrie internationale des loisirs, un peu à l'image, je dirais, d'un club méditerranéen qui est désormais bon racheté par des Chinois et qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il a vu naître, quand même, au sortir de la guerre, à savoir, on joue aux Polynésiens pour savourer sa liberté, dans un monde qui sort de crises et de guerres successives, dans un monde qui s'industrialise, qui s'urbanise, qui s'autopollue, on a un monde alternatif qui est celui du Club Med. Et je le rappelle toujours, ne pas oublier que le Club Med a été inventé non pas par Trigano, qui était son développeur, mais par Gérard Blitz, un Belge, qui a été chargé de la réinsertion des concentrationnaires belges après la guerre. Et qui, au fond, s'est d'abord occupé dans les années 47-48 de leur réinsertion en leur réapprenant à vivre ensemble. Et il dit, au fond, et c'est de là que lui vient l'idée du club. Il dit, au fond, c'est ça dont les gens ont besoin. Avec un beau soleil, une mer bien bleue et du sable bien jaune, le plaisir d'être ensemble dans l'entre-soi. Et c'est la première destination que vend le Club Méditerranée, c'est l'entre-soi. La communauté, ce qu'on a appelé un mini-socialisme, en fait, de 8 jours, de 15 jours, avec tout un apparat polynésien, le paréo, on a parlé de la génération paréolithique, et des paillotes, un habitat justement de l'ailleurs. La Méditerranée devient le réceptacle d'une sorte de Polynésie intérieure, porteuse de rêves d'ailleurs, dont les gens ont besoin au sortir de la guerre et dans un monde en pleine mutation.
Est-ce que la Méditerranée et l'Atlantique feraient un bon couple ?
Ben non, l'histoire nous dit que non. La Méditerranée a d'abord été une mer soumise, même depuis la mythologie. Okeanos a enfermé Tétis dans cette mer quasi fermée, qui ne communique avec l'extérieur que par ce très très étroit chenal qui est le détroit de Gibraltar, une trentaine de kilomètres, et qui de ce fait est moyennement fertile, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges avec l'extérieur pour que cette mer soit véritablement poissonneuse, contrairement à une certaine idée reçue. D'autant que cette mer est très vite profonde, donc elle n'a pas de plateau continental là où se reproduisent précisément les poissons. Elle a énormément de diversité, mais elle est terriblement fragile et terriblement épuisable. C'était un peu le cauchemar de Braudel, enfin, qui disait que peut-être l'avenir de la Méditerranée, ce sera d'être une réserve naturelle protégée de tous les... Bon, pour l'instant, c'est loin d'être le cas, et qui en plus va être transpercée. Va être transpercé de l'autre côté pour être transformé en couloir, pour faciliter le passage des gros bateaux par le canal de Suez, qui non seulement est enfermé, mais en plus, quelque part, violé par la technologie et les ambitions technico-politiques du 19e siècle. Donc effectivement, ce mariage entre océan et Méditerranée n'est pas franchement un mariage heureux. Il y a une phase initiale qui est une phase de soumission. Il y a des phases de contestation. C'est effectivement quand Méditerranée commence à accueillir des naturistes, voit les premiers voyages de noces se tourner vers Venise. Contrairement à la tradition, ce voyage de noces, c'est la revendication d'une indépendance du couple qui n'était pas la signification des premiers voyages de noces, qui était au contraire le signe de l'agrégation du couple à la famille, qui faisait le tour de la famille. C'était ça, le voyage de noces. Là, les nouveaux mariés, c'est le premier des tourismes sexuels à visage découvert, je dirais, s'en vont vers le sud pour pouvoir se découvrir l'un l'autre, loin de la famille toujours exigeante qui voudrait qu'il se plie à toutes les mondanités. Donc il y a une deuxième phase qui est cette phase un petit peu de contestation. Et puis il y a la phase de la révolte qui est ce moment où la Méditerranée dit merde résutre, je dirais, aussi bien au passé qui la leste et qui la rime à l'Orient qu'au futur qui est l'Amérique. Et elle vit sa propre vie avec son propre rêve. Voilà. Mais donc là, c'est la révolte. Mais cette révolte, finalement, frise le divorce. Il y a un divorce quelque part, c'est sûr. Si bien que quand même la Méditerranée, mentalement, reste l'autre de l'océan, incontestablement. Mais que physiquement, elle est toujours asservie quand même à ce mal dominant qu'est l'océan, qui aujourd'hui encore, évidemment, lui impose son dictat.
Et du point de vue de la taille, évidemment, elle ne fait pas le poids.
Elle ne fait pas le poids. C'est une pauvre petite mer de 2 500 000 km², ce qui est très peu de choses, à côté, évidemment, de l'immensité océanique contre laquelle elle ne peut pas lutter, évidemment. Évidemment. Et en plus, vous le voyez aujourd'hui, cette Méditerranée est cernée par les conflits en tout genre. Elle a été divisée, subdivisée, subdivisée de subdivision en subdivision. Ça a d'abord été la séparation en deux Est-Ouest avec l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Ça a été la séparation Nord-Sud avec l'islamisation de l'Afrique. Et puis après, ça a été la balkanisation qu'on sait, en états, nations qui se sont multipliées. Et la Mare Nostrum n'est plus qu'un vieux souvenir. Enfin bon, une unité perdue probablement à jamais. Donc non, vraiment, cette femme, c'est aussi un peu l'histoire de la femme coupée en morceaux quand même. Et émiettée aussi, dispersée en ces îles, qui sont sans doute ses derniers refuges, en fait, identitaires, je dirais, comme mère du rêve, mère de la transparence, pour les rêveurs qui souhaite ce type d'utopie, justement, lié à l'île, proche de la Robinsonade, etc. Oui, oui, oui. Non, non, non. Le couple est un couple turbulent et avec
quand même...
Un couple infernal, voilà. Et avec quand même beaucoup de misère réservée à la conjointe.
Votre livre, Jean-Didier Urbain, est aussi une histoire culturelle de la Méditerranée. Montrer, par exemple, l'importance qu'elle a eue pour les peintres, avec en premier lieu celui qu'on cite depuis le début de cette émission,
oui,
c'est-à-dire Matisse.
Matisse, oui, bien sûr. Matisse pour la lumière, Matisse pour la lumière clarté, pas pour la lumière chaleur. À la limite, le peintre d'ailleurs qui l'admire et qui lui est partiellement contemporain, très partiellement quand même, enfin il lui est contemporain, si, c'est Vincent Van Gogh. Van Gogh, mais Van Gogh, c'est vraiment le peintre de la chaleur, peut-être le premier peintre de la chaleur, mais de la chaleur douloureuse. Tout est incandescent chez Van Gogh, tout est déshydraté. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y avait cette exposition comparée entre Ichiragué, le peintre japonais, et Van Gogh. Ce qui était très frappant chez le japonais, il y a de l'eau partout, dans tous les dessins. Chez Van Gogh, il n'y a pratiquement jamais d'eau. Et on y trouve des êtres terrassés par la chaleur, y compris les nuits. Van Goghiennes sont des nuits incandescentes. C'est la chaleur qui tue, c'est la chaleur qui rend fou. Et pour avoir finalement une chaleur apaisée, hein, je pense que c'est avec Gauguin qu'elle nous viendra, justement, par le biais de la Polynésie. C'est le troisième peintre, quand même, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui sera publiquement connu assez tardivement, dans les années 1920, seulement quand il y aura des premières donations de particuliers qui feront circuler les œuvres de Gauguin et qui révéleront les paysages au plus grand nombre d'une Polynésie où l'on s'habille de paréo, où l'on a la peau bronzée, où justement le stigmate du bronzage n'est plus ce marqueur social et ethnique si redouté par les bourgeois du 19e et du début du 20e, puisque bronzé au début au 19e était quelque chose absolument à fuir, d'abord parce que c'est un marqueur social. Qui est bronzé ? C'est le paysan, c'est l'ouvrier qui travaille dehors, c'est le prolétaire. Le bourgeois, lui, et l'aristocrate, encore à plus forte raison, a la peau blanche. Et puis, vous avez même Michelet qui, dans La Mer, rappelle que quand même le bronzage donne un teint africain. Donc il y a cette idée aussi d'une régression raciale, hein, il y a une régression ethnique, je dirais, qui sous-tend l'imaginaire du bronzage. Et il faudra attendre, là aussi, cette période charnière, culturelle, 1925-1930, où tout bascule, où vous avez quantité de héros et autres pionniers de la transgression de cet ordre de censure, de frais, d'ombre, de peau blanche, comme par exemple Coco Chanel qui se bronzera sur la Riviera et pour laquelle un dénommé Jean Patou inventera la première huile solaire, insuffisante dans ses performances, et donc elle sera remplacée après par la fameuse ambre solaire de L'Oréal. Mais voilà, quoi, il y a vraiment toute une histoire culturelle qui effectivement se met en place, marquée par une imagerie qui vient effectivement, mais de Matisse, qui met quand même plus de 20 ans d'incubation, je dirais, pour nous rendre quelque chose de son propre voyage en Polynésie. Ce sont ces fameux collages ou monochromes bleus ou multicolores à base d'algues, de poissons, d'étoiles de mer, qui sont effectivement une exaltation d'un autre monde et qui, sur lesquels il finira sa vie quand même. Il en fera même des vitraux. C'est beau comme un vitrail, c'est transparent, justement. C'est le Matisse de la lumière et qui aura un impact énorme, je dirais, sur l'imaginaire méditerranéen, bien sûr. Ce qu'il faut peut-être signaler quand même, c'est que ce retour à la mer va essaimer tout au long de la Méditerranée. C'est vrai que la Côte d'Azur en est sans doute l'épicentre. C'est vrai que c'est une invention anglaise, mais que ce modèle de station du bord de mer va se propager tout autour de la Méditerranée, jusqu'en mer Noire, Les aristocrates russes privés de Méditerranée pendant la Première Guerre, par exemple, vont se mettre à reconstruire la Côte d'Azur à l'intérieur de la mer Noire. Et puis il y aura la Révolution russe, et les aristocrates se réfugieront en mer Noire. Donc, et puis il y avait les Anglais qui trouveront que la Côte d'Azur et alentour s'en canaille un peu trop et qui se mettront à reproduire cela du côté du Caire ou d'Alexandrie, hein, voire hors de Méditerranée, à Madère, où ira Sissi, où ira Churchill, etc. Mais je veux dire, après la Méditerranée, ce type de Méditerranée va essaimer, au fond, hein, un modèle de séjour en bord de mer qui est considérable.
Comment est né l'estivant ?
Alors l'estivant, pour bien comprendre le mot, si vous voulez, linguistiquement, si vous regardez dans le dictionnaire historique de la langue française de Alain Rey, estivant, le mot apparaît en 1920. Bon, ça veut simplement dire quelqu'un qui est là en été. Simplement, pour bien le comprendre, estivant apparaît justement par opposition à hivernant. C'est cet homme qui vient en lieu et place de l'hivernant au même endroit, mais en été. Or, si vous voulez, la Méditerranée est un lieu d'hivernage réservé aux hivernants jusque dans les années 20-25. Et l'estivant, comme par hasard, le mot est créé quand commencent à apparaître ces farfelus qui viennent en été, là où d'ordinaire on ne va qu'en hiver. Il y a notamment un naturiste pionnier qui s'appelle Théo Varley, qui d'ailleurs, je l'ai découvert depuis, a été le traducteur de Stevenson, dans ses récits de voyage dans les îles, justement, et qui, lui, pratique un naturisme d'été sur l'île du Levant, avant même la Première Guerre mondiale. Entre 1909 et 1912, il va avec sa femme vivre nu, hein, aux îles du Levant. Donc, il y a des pionniers comme ça, il y a des héros qui... Donc, c'est ce que j'ai un peu essayé de montrer dans ces... Il y a quantité d'indices, si vous voulez, qui vont tous dans le même sens. Donc, parmi ces indices, il y a les arguments déjà mis en avant par les historiens, plus quelques autres que je me permets d'ajouter. Mais il y a, par exemple, l'immoraliste de Gide. Hein, on dit que c'est le premier bain de soleil de toute la littérature, avec un Michel qui se met complètement nu en 1902 en Algérie et qui s'expose au soleil et qui dit qu'il en éprouve une énorme jouissance. Bon, il y a tout cet hédonisme qui vient, qui apparaît. Il y a Evelyne Vaux qui critique sévèrement ses compatriotes à la fin des années 20, qui est de passage à Monte-Carlo. Il dit « mes compatriotes sont idiots ». Il se plie à un rituel absurde. Au moment où la vie naît, ils s'en vont. Au moment où les fleurs explosent, au moment où la végétation revient, ils rentrent dans leur cité crasseuse et chaotique et ils abandonnent ce pays de merveille qui est la Côte d'Azur. Quoi. Là, on voit bien tous ces gens comprennent que quelque part on s'est trompé et que le meilleur de la Côte d'Azur et de la Méditerranée est à prendre en été. Mais c'est vrai que la tradition est très forte. Le voyage en Orient se fait en hiver. Quand Daudet va en Algérie, où il va faire finalement ses repérages qui donneront Tartarin, il y va en hiver. Hein, il part, je crois, en novembre, il revient en janvier ou février. Hein, c'est, il n'y a guère que Flaubert, de ce point de vue-là, qui lui fait un grand tour de Méditerranée, qui passe plus d'un an en voyage autour de la Méditerranée, mais c'est l'hiver que l'on va en Orient, c'est l'hiver que l'on va en Grèce, c'est l'hiver que l'on va en Italie. Freud, à Venise, à la fin du 19e siècle, se plaint de l'inhumaine chaleur qu'il fait à Venise. Bon, vous voyez bien, il y a une rupture, je dirais, de sensibilité, hein, qui se dessine. Alors, je ne dis pas que je l'explique, mais en tout cas, je constate qu'elle est en stéréo. Hein, elle se dit de multiples façons, à travers la peinture, à travers des pratiques, à travers des discours, à travers des flux, des comportements. Je parlais du voyage de noces, les jeunes mariés, avant, voyageaient aussi en hiver. Et de plus en plus, la tendance est d'aller plutôt en mai. Au moment, à Venise, au moment où les hôtels ferment, justement. Hein, une forme de transgression d'un ordre qui annonce effectivement la naissance d'un nouveau monde. Hein, qui est censément, ce nouveau monde est censément né au sortir de la Première Guerre mondiale, mais enfin, il garde encore des traces de l'ancien. Hein, même quand le soleil, si vous voulez, le soleil est reconnu comme bon pour la santé dès le début du XXe siècle par un docteur suisse qui a introduit les solariums dans les sanatoriums suisses, et l'on prend le soleil comme un remède, au même titre que la sylvothérapie, l'aérothérapie, l'hydrothérapie, il y a l'héliothérapie. Ça, c'est au début. Il faut quand même 25-30 ans pour que la barrière morale s'abaisse et qui va lutter contre cette reconnaissance du soleil comme un bon remède. Sous peur, sous la peine, si vous voulez, la peur de bronzer est toujours là. La peur de noircir. Donc il y a vraiment une idéologie très réactionnaire, très conformiste, qui va résister à cette estivalisation, si je puis dire, de la Méditerranée. Parce que l'hivernale, elle va demeurer, de toute façon. Mais désormais, la Méditerranée est une destination toute l'année.
Une légère ombre sous le soleil à la fin de votre livre.
Oui. Là, je finis par une note un peu pessimiste. Je me suis laissé peut-être aller à une certaine nostalgie, je ne sais pas. Mais enfin, oui, ce sentiment qu'au fond, le tourisme international produit des modèles, je dirais, industriels. Je n'ai rien contre le commerce du voyage, de loisirs, et surtout un commerce qui produit du plaisir. Ne peut-être qu'encourager. Mais c'est les formes qu'il prend aujourd'hui, je dirais, par l'industrialisation, par la... Je n'aime pas le terme de massification, parce que c'est une façon de nier la diversité des pratiques, mais je dirais par sa systématisation, qui conduit évidemment à des bétonisations. Vous avez des exemples types comme la côte sud de la Crète, qui est complètement bétonnée, alors que c'était une des côtes sauvages les plus belles de Méditerranée, qui avait inspiré les hippies. D'ailleurs, toutes les côtes ont inspiré les hippies, il faut dire. Mais enfin, on est très loin des hippies de Crète, qui étaient à Matala, etc., qui était un lieu effectivement paradisiaque. Il y a aussi des tournures autour de la Méditerranée qui prennent des formes. Là aussi, il y a un symptôme. Yves Michaud a consacré un livre à cette île qui est Ibiza. Ibiza est devenue une île industrielle qui accueille plus de 2 500 000 visiteurs pour, au fond, une festivité très, très, qui est proche de l'assommoir, je dirais. C'est le binge drinking collectif, et qui n'a plus grand-chose à voir avec la magie du lieu. C'est une sorte de loisir hors sol, je dirais. Ça se passe à Ibiza, ça pourrait être ailleurs. Bon, on n'a plus toute cette symbolique, si vous voulez. Quand le Club Méditerranée s'est installé à Majorque, les hippies, eux, sont allés à Formentera ou à Ibiza. Bon, parce que c'était pas la même culture, si vous voulez. Une ombre est passée aussi de ce point de vue-là, à savoir que effectivement, très vite, le modèle du club, qui était un modèle de progression sociale, de provocation, de transgression, d'émancipation, c'est complètement retourné en très peu de temps, en une vingtaine d'années, créé en 1950. Dans les années 1970, il devient le symbole de la société de consommation, dénoncé par des contre-cultures, comme la culture, justement, hip, qui dit « oui, mais ça, c'est du simulacre, c'est de la communauté jouée, ce n'est qu'un décor, c'est une communauté achetée, c'est un forfait ». Bon, nous, on est de la vraie communauté. On cultive notre jardin, on autoproduit, on autoconsomme, on autogère. Le Club Med, c'est un simulacre et une imposture. Et dès cette époque, le Club Med commence déjà à devenir... Le concept commence déjà à devenir caduc.
Au soleil, naissance de la Méditerranée estivale, le livre de Jean-Didier Urbain, est publié chez Payot. Du jour au lendemain, Éric Boisset, Anne Franchini, François Poirier, Alain Winston, bonsoir. Thank you.